Donc, nous allons commencer cette. Je crois que ça s'appelle une table ronde, dédiée à une réflexion sur la lutte contre la pauvreté. Alors, je dirais que malheureusement, c'est un sujet qu'on peut faire à peu près à chaque rencontre. C'est vrai qu'on avait déjà eu d'ailleurs une table ronde à peu près sur le même thème, voici 3 ans, lors des premières rencontres qu'avait organisées la République des idées. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, Serge Pogam, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'École des hautes études en sciences sociales, qui vient le dernier ouvrage paru, comme on dit, La régulation des pauvres, qui est un dialogue avec Nicolas Duvoux, qui a... Bon, pour une fois que j'ai lu un livre, je peux en dire un mot, qui est qu'il a ceci de très intéressant, qui met en perspective, d'un certain point de vue, le regard qu'on a aujourd'hui sur ce phénomène qu'on désigne sous le nom de pauvreté, ou sur la place de la pauvreté dans nos sociétés, et ce qu'il avait été il y a 20 ans, et au regard de toute l'évolution qu'il y a eu depuis, avec la création du RMI, et maintenant l'actualité du RSA. Alors, je pense que depuis que le livre a été écrit, le développement qu'a pris même la crise percute encore un peu plus l'analyse que vous aviez pu livrer. Et c'est intéressant pour nous que tu sois là pour en témoigner. Julien Damon, lui, professeur associé à Sciences Po, collaborateur de nombreux journaux et magazines de manière très éclectique, puisque ça va du quotidien Les Échos à l'excellent magazine Alternatives économiques, dont j'ai la chance de diriger la rédaction. Et il a écrit de nombreux ouvrages, Vivre en ville, notamment, qui va au-delà justement du champ de référence qui est le tien, qui a été souvent. Celui-là, non, mais j'ai eu par contre 4 pages dans Alternatives économiques qui m'ont dispensé de le faire. Et en revanche, sur les SDF, sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, sur les difficultés d'accès qu'ils ont pour les gestes les plus simples de la vie quotidienne, il a beaucoup travaillé et sur des points qui témoignent d'un engagement profond justement dans la lutte contre l'exclusion dans ce qu'elle a de plus disqualifiant pour les personnes, si je peux me permettre d'employer ce concept. Et puis ensuite, c'est Philippe Varin qui interviendra. Alors, Philippe Varin n'est pas sociologue, lui, il est politologue, il est directeur de recherche au CNRS. Et donc c'est plus sous l'angle de la façon dont l'action publique considère, prend en charge aujourd'hui la pauvreté qu'il interviendra. Bon. Alors, juste un petit mot pour introduire et pour rappeler, puisque je suis le seul économiste à cette table, que nous sommes quand même dans une des sociétés qui est les plus riches du monde. Je veux dire, il y a des évidences à rappeler. Je veux dire, on est dans une société qui est 50% plus riche en termes de PIB par habitant, qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Et donc c'est une insulte à la qualité de notre communauté politique, pour reprendre les termes de Pierre Rosanvallon, qu'on puisse avoir de telles inégalités de conditions. Alors, c'est vrai que l'attention est portée aujourd'hui bien souvent sur les revenus des plus aisés, sur leur parachute doré et leur golden halo et leur rémunération et leur stock option. Mais même si elle interroge évidemment la commensurabilité des rémunérations et donc la question de est-ce qu'un homme en veut un autre, c'est vrai que la question d'un homme qui en vaut un autre, qui est au cœur de l'idée même de la démocratie, du suffrage universel, est évidemment gravement mise en cause quand toute une partie de la population n'a pas accès aux droits élémentaires et droits élémentaires qui leur permettent précisément d'exercer parfaitement et pleinement leur qualité de citoyen. Et d'un certain point de vue, on peut considérer que longtemps, finalement, on s'en est accommodé, précisément parce que c'est une population qui participait peu, qui se retrouvait de fait exclue largement du champ politique. Et le paradoxe peut-être de la crise aujourd'hui, c'est qu'à la fois elle dissout la pauvreté dans une interrogation plus large, où on voit le monde du salariat dans son ensemble qui s'interroge sur son avenir, mais en même temps, elle oblige l'ensemble de la société à se reposer la question des conditions du vivre ensemble, et surtout dans un moment où l'État étant de nouveau intervenu assez fortement dans la vie économique au secours des banques, veux dire, c'est vrai que, sans faire dans la démagogie journalistique, dire c'est vrai qu'on a tous vu l'État apporter des milliards aux banques. Le fait que quelques semaines auparavant, il est apparu quasiment impossible de débloquer 1,5 milliard pour financer le RSA, apparaissait quand même comme une sorte d'insulte à la qualité du vivre ensemble dans notre société. Voilà. Donc, sur ces quelques considérations, je donne tout de suite la parole à Serge Pogam pour une quinzaine de minutes.
Merci. Je voudrais, dans cette table ronde, aborder tout d'abord la question du lien que l'on peut faire entre la lutte contre la pauvreté et la démocratie. Le colloque ici s'intitule « Réinventer la démocratie ». Pourquoi, finalement, on pourrait se commencer à s'interroger, pourquoi une table ronde sur lutter contre la pauvreté dans ce cadre on pourrait, quand on analyse la pauvreté, se dire, s'alarmer à partir d'indicateurs objectifs de la croissance de la pauvreté, s'inquiéter, par exemple, de la proportion importante de travailleurs pauvres, mais on peut aussi se demander pourquoi, finalement, cela remet-il autant en question la question de... Pourquoi ça pose finalement le problème de la démocratie. Je voudrais essayer ici de vous proposer une perspective sociologique d'analyse de la pauvreté pour commencer, pour vous dire donc quel est le regard que le sociologue porte sur ce phénomène et comment il essaye de l'analyser, de le comprendre. Et ensuite, je voudrais vous faire part d'un certain nombre de travaux récents qui ont porté à la fois sur des comparaisons internationales et en même temps souligner l'importance des variations que l'on a pu observer au cours notamment des 20 dernières années cela a été indiqué là tout à l'heure à partir de, c'était le thème notamment du livre que j'ai eu le plaisir de réaliser avec Nicolas Duvoux. Alors, quel est le regard du sociologue sur le phénomène de la pauvreté? Je crois que le sociologue ne peut pas se contenter d'analyser des statistiques de la pauvreté. Ça, c'est vraiment quelque chose de base. Le sociologue ne peut pas se dire, on va mesurer la pauvreté. La sociologie, c'est autre chose. C'est d'essayer de comprendre justement comment la pauvreté va travailler la société. Et essayer de comprendre le mode de fonctionnement de la société par rapport à ces pauvres, par rapport aux pauvres dont qu'elle prend en compte ou qu'elle ne prend pas en compte. Et c'est ça l'essentiel, me semble-t-il, du regard du sociologue. De ce fait, c'est pas finalement la pauvreté en tant que telle qui intéresse le sociologue, mais c'est bien les relations d'interdépendance entre les pauvres dans une société donnée et le reste de la société. On pourrait presque dire que ce qui intéresse le sociologue à travers la question de la pauvreté, c'est le lien social. Et donc, c'est le fonctionnement de la société dans son ensemble. Et donc, la démocratie. Comment on vit en société quand il y a une partie de la population qui est privée du nécessaire, qui est privée du socle nécessaire de droit ou qui est privée également des supports relationnels élémentaires pour pouvoir fonctionner dans une société ouverte et démocratique. Et c'est ça, me semble-t-il, la question. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans les recherches que j'ai pu faire ces dernières années, c'est tout d'abord que la pauvreté ne travaille pas les sociétés de la même manière partout dans le monde, et même en Europe, il existe de profondes variations. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à rappeler dans un premier temps. Les représentations de la pauvreté changent d'un pays à l'autre. Les expériences vécues de la pauvreté ne sont pas les mêmes partout en Europe. Et cela veut dire donc que le lien entre pauvreté et lien social et démocratie n'est absolument pas aussi évident dans tous les pays, même des pays qui nous sont proches, puisque des pays qui appartiennent à l'Union européenne. Si vous voulez, tout d'abord, on peut être surpris de la non-congruence d'un certain nombre d'indicateurs, en particulier si on prend des indicateurs de pauvreté subjective et des indicateurs de pauvreté objective. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre l'importance d'une analyse qui tient compte des représentations de la pauvreté et des expériences vécues de la pauvreté. Vous prenez, c'est un exemple que j'ai déjà pris, si vous l'avez déjà entendu, je m'excuse, je le reprends ici. Les habitants de Madère, vous situez Madère. Madère est une petite une île, belle. J'y suis jamais allé, mais en tout cas, il y a des images qui circulent. Et on a donc des statistiques sur la pauvreté à Madère. On s'aperçoit que le taux de pauvreté est objectivement élevé dans cette île. Si on se réfère au seuil de pauvreté que l'on retient pour le Portugal. Donc il y a plus de pauvres à Madère qu'il n'y en a au Portugal, objectivement. Mais quand on prend en compte des indicateurs subjectifs, on s'aperçoit qu'à Madère, les gens ne se sentent pas du tout pauvres. Ils se sentent intégrés, parfaitement intégrés au système social. Si on prend en comparaison ce qui se passe à Lisbonne, donc grande métropole en développement, où il existe encore aujourd'hui des bidonvilles, on s'aperçoit que globalement, la pauvreté objective est plus faible qu'à Madère, mais que les pauvres à Lisbonne se sentent beaucoup plus pauvres, la population se sent beaucoup plus pauvre à Lisbonne qu'à Madère. Donc c'est toute cette ambiguïté, si vous voulez, des indicateurs qui montrent que il faut prendre en compte comment une société ou un groupe social dans une région donnée se régule en fonction des aspirations de bien-être ou au contraire se désagrège en raison des indicateurs ou des facteurs de détresse psychologique. Et donc il y a plus de frustration dans des villes comme Lisbonne, des métropoles comme Lisbonne, où il existe donc des différences, des inégalités au sein de la population, que dans une île comme Madère, où la pauvreté est beaucoup plus intégrée dans le système social lui-même, et où les habitants de cette île ont le sentiment d'appartenir à une collectivité qui fait un tout et qui assure un destin commun. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et quand on prend en compte donc les variations en Europe, on peut distinguer plusieurs formes élémentaires de la pauvreté. Dans les travaux que j'ai réalisés, j'ai distingué la pauvreté intégrée, la pauvreté marginale et la pauvreté disqualifiante, renvoyant donc à des configurations et à des relations spécifiques d'interdépendance entre des pauvres et le reste de la société. Donc c'est déjà un premier point, il y a des variations non négligeables, y compris entre des pays qui nous semblent particulièrement proches. Je voudrais également insister sur le fait que la pauvreté varie également très fortement d'une période à l'autre de l'histoire. Et quand on étudie à l'intérieur d'un pays, on s'aperçoit que les représentations de la pauvreté ne sont pas stables. Elles évoluent également très fortement. Et je me suis aperçu de ça en particulier quand j'ai exploité les données des enquêtes européennes sur la perception de la pauvreté et de l'exclusion. On a la chance d'avoir en Europe des enquêtes qui ont été réalisées depuis le milieu des années 70 régulièrement sur cette question. Et on peut donc analyser l'évolution de ces représentations. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que d'un contexte à l'autre, ces représentations de la pauvreté changent. Alors, en particulier, il y a une question qui est intéressante à suivre dans le temps, et j'espère qu'on pourra la suivre encore dans les années à venir, dans un contexte de crise qui prononçait que nous connaissons, c'est on demande à la population générale, pas simplement aux pauvres, de se déterminer sur ce qui explique finalement la pauvreté. Alors dans les réponses proposées dans l'enquête, on demande aux individus de dire, de se prononcer sur au moins deux items qui sont très contrastés. Sur le premier, c'est s'il existe des pauvres dans une société donnée, c'est parce qu'il y a beaucoup d'injustices sociales. Et un deuxième item met l'accent, au contraire, sur la responsabilité des pauvres face à leur situation. Donc, l'un renvoyant beaucoup plus donc, à la responsabilité sociale, s'il existe des pauvres, c'est parce que la société est injuste à l'égard des plus défavorisés. Et l'autre approche met l'accent davantage sur la responsabilité individuelle et sur la paresse des plus défavorisés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la proportion de personnes qui répondent à la première modalité, c'est-à-dire mettant l'accent sur la responsabilité sociale, et la proportion de personnes qui répondent en fonction de la deuxième, c'est-à-dire la responsabilité individuelle, on voit que ça varie considérablement, justement, d'un contexte à l'autre. Alors, comment ça varie ? D'abord, ça varie très fortement d'un pays à l'autre, mais ça, je l'ai déjà plus ou moins dit. Mais ça varie également à l'intérieur de chaque pays selon la conjoncture. Alors, pour bien vous situer, dans les années 80, au moment où on découvrait, où on redécouvrait la pauvreté à travers d'ailleurs la notion même de nouvelle pauvreté, on se rendait compte, ainsi que dans les années 90, que l'explication dominante en France, en particulier de la pauvreté, était celle de l'explication par la responsabilité sociale, par l'injustice sociale. On était dans un cycle de représentation de la pauvreté qui mettait l'accent sur la nécessité, pour garantir le lien social, la cohésion sociale, de la nécessité d'intervention de la nation tout entière à l'égard des plus défavorisés. J'ai participé à la réflexion sur la mise en place du RMI il y a 20 ans, et je peux vous confirmer que c'était bien l'esprit qui régnait à cette époque, c'est-à-dire l'idée que nous avions une dette collective à l'égard des plus pauvres, et qui dit dette, ça veut dire qu'il y a prise en compte du fait qu'il y a des injustices sociales qui doivent être combattues, et donc on doit aider les plus défavorisés. Pour garantir justement un fonctionnement solidaire et une démocratie vivante où les plus pauvres ont toute leur place. Mais ce que l'on observe, c'est que à la fin des années 90 et au passage à l'an 2000, en tout cas l'enquête de 2001 qui a été réalisée en Europe, montre un changement considérable. On n'est plus dans ce cycle de l'injustice sociale, de l'explication de la pauvreté par l'injustice sociale. Partout en Europe a progressé l'explication de la pauvreté par la paresse. Partout. Et là, donc, c'est vraiment un renversement de tendance très lourd. Alors, on s'est efforcé de comprendre ce renversement et d'analyser les facteurs explicatifs. Et on a pu cerner, d'un point de vue statistique, que les facteurs explicatifs, des facteurs de contexte, étaient quand même très fortement marqués par, enfin, en tout cas, les facteurs les plus significatifs, c'était l'ampleur du taux de chômage dans une société. Et quand le taux de chômage baisse fortement, il y a une probabilité plus forte de percevoir les pauvres comme potentiellement paresseux. C'est-à-dire que ceux qui restent en situation de pauvreté au moment où la machine économique repart ont plutôt tendance à être culpabilisés par le reste de la société. Donc la stigmatisation à l'égard des pauvres s'accentue dans des périodes de reprise économique et de réduction du chômage. Dans des périodes de crise prononcée, où le chômage est particulièrement répandu, nous avons plutôt une tendance de compassion à l'égard des plus défavorisés, notamment des chômeurs. Et c'est exactement ce que l'on a observé. Les indicateurs que Julien Damon, notamment, a bien collectés aussi sur la perception du RMI suivent tout à fait cette évolution également. Il y a eu une suspicion beaucoup plus forte à l'égard des allocataires du RMI à la fin des années 90. Et donc, on était au début des années 2000 dans un cycle qui n'était plus du tout conforme au cycle que nous avions connu au moment du vote de la loi sur le RMI. De là, des initiatives qui ont été prises et que vous avez pu constater, on a essayé d'inciter davantage les allocataires du RMI à sortir de l'assistance, alors que dans les années 90, l'idée était bien sûr de favoriser l'insertion, mais de favoriser l'insertion sous toutes ses formes, avec l'idée qu'on allait faire ce qu'on pouvait dans un contexte pas facile de dégradation du marché de l'emploi. On savait très bien que c'était difficile d'accéder à l'emploi. Alors, l'insertion multiforme avait pour effet de garantir finalement le lien social minimal. À partir du moment où la crise s'est atténuée et le chômage a reculé. Rappelez-vous qu'on a quand même perdu 1 million de chômeurs dans les 3 dernières années de la fin des années 90, hein. Donc, que l'on va d'ailleurs retrouver très vite dans quelques temps. Mais dans ce contexte de réduction du chômage, il y a eu une attitude plus prononcée à l'égard des allocataires du RMI pour les inciter davantage à entrer sur le marché de l'emploi, même si les emplois disponibles sur le marché n'étaient pas forcément des emplois très épanouissants, très valorisants du point de vue de l'intégration professionnelle. Et c'est dans ce contexte que je peux dire qu'on est passé d'un cycle de la compassion à un cycle de la culpabilisation. Alors le terme est peut-être un peu fort aujourd'hui, certains pourront peut-être le nuancer. Est-ce qu'on est vraiment dans un cycle de la culpabilisation ? Moi, en tout cas, il y a plusieurs indicateurs convergents qui montrent que l'on est dans une attitude beaucoup moins compatissante à l'égard des pauvres. Alors, c'est là qu'il faut peut-être commencer à interpréter ce que signifie finalement la mise en place du revenu de solidarité active dans ce contexte. Alors, de mon point de vue, il ne s'agit pas de remettre en question cette idée de solidarité à travers le revenu de solidarité active, et je ne veux pas être ici, avoir un point de vue normatif et critique sans nuance sur ce dispositif. Mais je dis que ce dispositif s'inscrit parfaitement dans ce cycle de la culpabilisation, au sens où on met l'accent avant tout sur la responsabilité de l'individu. Et on met l'accent sur le fait que c'est à lui de se prendre en charge et d'accepter finalement des emplois, même si ces emplois ne sont pas à la hauteur de ses espérances et ne lui garantissent pas forcément une intégration professionnelle véritable. Alors, on pourra dire que c'est mieux que rien, et c'est bien le discours qui a été tenu pour justifier le revenu de solidarité active. C'est mieux que rien, c'est mieux que l'assistance. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire, effectivement, si on compare, on pourra dire peut-être. Mais il y a en même temps un risque majeur, et c'est, je pense que la discussion peut avoir lieu aujourd'hui, sur le risque d'être maintenu durablement dans un segment du marché de l'emploi où l'assistance devient finalement un moyen de se maintenir sur le marché de l'emploi. Autrement dit, il est possible d'être finalement dans un statut qui est un statut d'emploi précaire, mais d'un statut de travailleur précaire, donc assisté durablement, sans limitation de durée. Ça veut dire qu'on risque ainsi, par cette mesure, de maintenir durablement des pauvres dans un segment intermédiaire entre l'emploi véritable et l'assistance. Alors, on peut dire que c'est mieux, mais on peut dire aussi que c'est inquiétant, parce que si le marché de l'emploi commence à se réguler de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va créer là, de façon chronique, un sous-salariat. Alors certains diront, mais il existait déjà avant. Oui, mais là, il est pensé durablement, sans limitation. Ça veut dire que le risque, c'est que l'avenir professionnel des pauvres sera celui d'avoir le statut de travailleur précaire assisté. Et c'est ça, me semble-t-il, la grande question qu'il faut poser, qu'il faut avoir le courage de poser dans ce contexte actuel. Et je dirais en même temps quelques mots, peut-être il faut le souligner, c'est que cette mesure, elle s'inspire, c'est une mesure du point de vue des formes d'intervention de régulation de la pauvreté, elle est vraiment d'essence libérale, au sens où on met l'accent principalement sur une mesure incitative de sortie de l'assistance par l'acceptation de l'emploi précaire. C'est une mesure d'essence libérale. Ce n'est pas du tout les mesures qui sont préconisées dans d'autres contextes, notamment dans les pays scandinaves, où on met beaucoup plus l'accent sur l'accompagnement social dans l'emploi pour l'intégration véritable sur le marché de l'emploi, en limitant le plus possible le risque de précarisation des situations professionnelles. Donc là, on a un vrai enjeu de société. Est-ce qu'on préfère finalement une situation d'incitation des pauvres à la recherche de l'emploi précaire, ou au contraire un véritable accompagnement social vers une intégration sociale qui sera durable parce que fondée sur des qualifications professionnelles reconnues et susceptibles de se traduire par des emplois stables, toute la différence est là, je crois. Alors, une mesure d'essence libérale qui est pourtant en France portée par les courants de droite comme de gauche, parce qu'il n'y a pas eu de remise en cause radicale de cette orientation. Alors qu'en Allemagne, un dispositif très comparable a été mis en place, a été très très fortement critiqué à gauche, remis en question très fondamentalement. En France, il n'y a pas eu ça. On peut s'interroger pourquoi. Pourquoi il n'y a pas eu cette interrogation fondamentale. Pourquoi tout le monde y est allé plus ou moins. Pourquoi on n'a pas voulu autre chose. Pourquoi on n'a pas voulu un autre avenir pour les pauvres que celui du risque d'être ainsi intégré dans ce sous-salariat chronique. C'est une question qu'il faut oser poser parce qu'elle interroge notre démocratie, parce que si aujourd'hui on veut garantir un avenir aux plus défavorisés, il faut leur donner le maximum de chances, et là il y a vraiment un risque que cela ne les maintienne pas véritablement dans une forme d'intégration sociale où ils pourront avoir toutes les chances de promotion. Un mot peut-être, juste pour terminer, nous entrons dans une autre phase aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que nous allons rester dans ce cycle de la culpabilisation. Le RSA s'inscrit bien dans ce cycle de la culpabilisation, de mon point de vue. J'accepterai les critiques. De mon point de vue, il s'inscrit très bien dans ce cycle, mais le chômage repart. Donc il n'est pas impossible que nous retournions à un cycle de la compassion à nouveau et peut-être à une exigence plus élevée d'intégration des plus défavorisés et donc d'exigences plus fortes en termes de démocratie et de cohésion sociale dans notre pays. Merci.
Merci, Serge Poguin. C'est vrai que le RSA, mais on a eu un peu le même phénomène avec le PAR quand il est apparu, qui était une volonté d'offrir un traitement particulier aux chômeurs dans un contexte qui était un contexte de reprise de l'activité et où très rapidement le MEDEF a trouvé que ça coûtait trop cher quand l'activité économique s'est ralentie. Et que donc, ce qui a été proposé aux chômeurs pour les remettre sur le marché du travail... Bon. Alors, avec le RSA, on a un dispositif différent, dans la mesure où c'est effectivement la collectivité qui, elle, fait le chèque, qui, en fait, se substitue largement à la PPE, à la prime pour l'emploi, sans être avec un coût budgétaire, d'ailleurs, qui est extrêmement différent. Parce qu'il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est le montant de l'allocation, parce qu'on voit bien que le gain en termes de niveau de vie pour la personne qui est au RSA sur la première année est quand même extrêmement faible par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Et bon, si j'en crois les calculs de Denis Clerc, je veux dire, non, c'est pas toujours extrêmement concluant. Mais juste un mot que je voulais souligner, qui était que dans un contexte qui était un contexte où on avait effectivement un acquis de flexibilité du marché de l'emploi, très fort, avec le côté petit boulot que vous avez décrit, et dans le même temps, des perspectives de retour au plein emploi liées au fait qu'on avait une croissance résiduelle qui n'étaient pas négligeables, des gains de productivité qui avaient plutôt tendance à se ralentir, et en même temps une situation démographique liée au départ des baby-boomers et l'arrivée sur le marché du travail de classes moins nombreuses, qui était plutôt favorable à l'emploi. Et donc, la perspective de ceux qui régulent le marché de l'emploi était qu'il fallait de toute façon inciter ces gens à revenir, et d'autant plus les inciter qu'il y avait peut-être une bonne chance que les rapports de force sur le marché du travail se modifient, et que finalement, pour des raisons simplement d'offre et de demande, les employeurs soient amenés à passer d'une situation de cueillette à une situation de culture. Je veux dire, et donc de former les gens, d'essayer de les faire grimper, de les faire garder. Bon. Alors, c'est vrai que, d'un certain point de vue, dans ce scénario, le RSA aurait pu être une marche vertueuse vers la qualité dans une société revenant au plein emploi pour réinsérer, à un moment donné, les gens sur le marché. Et ce qui est vrai, c'est que dans une situation où, à l'inverse, c'est le phénomène contraire qui est en train de se passer avec la crise, il perd aussi de son sens dans la mesure où l'emploi devenant tellement rare que même ces petits boulots deviennent largement inaccessibles à ceux à qui on les destinait jusque-là. Et donc la question d'avoir de politiques de solidarité qui soient plus vastes et plus fortes revient évidemment centralement à l'ordre du jour. Et du coup, la segmentation qu'il y avait entre cette politique résiduelle et l'absence d'une politique de flex-sécurité qui soit comparable à celle scandinave, avec un service public de l'emploi de très haute qualité, des politiques de formation dans l'emploi avant de se retrouver sur le marché du travail, qui soit forte, qui caractérise la société française, je veux dire, justement, où on en parle beaucoup, mais on ne le fait pas, va revenir, évidemment, au cœur du débat public. Donc, sur ces quelques réflexions que donne à penser l'intervention de Serge Pogam, je donne maintenant la parole à Julien Damon, également pour une quinzaine de minutes.
Alors, j'ai plein de choses à vous dire, parce que c'est un sujet absolument fascinant. Je suis évidemment absolument d'accord sur tout avec Serge Pogam, à quelques bémols près. Bien sûr, mais attends, il faut être poli. À quelques bémols près, sur lesquels je terminerai et j'insisterai. J'avais prévu de faire un truc relativement logique en deux parties, qui était de me poser une question simple, c'est de quoi parle-t-on, et ensuite de voir en quoi ceci est une question démocratique, la pauvreté, et je vais faire le contraire. Comme ça, je pourrais terminer sur le RSA. Alors, en quoi c'est une question démocratique? D'abord, dire qu'en France, c'est une question démocratiquement neuve, la pauvreté. Jusqu'à la fin des années 70, lorsqu'on parlait tout simplement de la question du vote, ne se posait absolument pas dans les débats publics et dans les débats d'experts le problème de la pauvreté, de la situation relative des pauvres face à leur problématique de représentation dans la société. En témoigne une multitude de papiers sur ce point. Mais sur la question démocratique, je vais reprendre le propos de M. Rosanvallon ce matin, comme ça fera une grande logique dans tous nos ateliers. Vous avez vu qu'il distingue la démocratie d'émancipation, la démocratie de régulation, la démocratie d'institution. Sur la démocratie d'émancipation, qui est la démocratie des droits, en la matière, par matière là j'entends la question de la pauvreté, nous avons considérablement progressé. La prise en charge de la pauvreté jusqu'au milieu des années 50 en France était essentiellement de l'ordre du droit pénal. On enfermait les vagabonds. C'était ça la principale dépense publique. Depuis lors, le droit social a considérablement progressé. Alors on peut dire que le droit des pauvres est un pauvre droit, qui est une sorte d'axiome issu d'un article sur ces questions. Ce pauvre droit s'est lui-même enrichi en la matière. Donc, sur la démocratie, sur ce volet émancipation, nous avons progressé. Pierre Rosanvallon l'a souligné vivement tout à l'heure, sur la question de la démocratie d'institution ou de redistribution, comme le disait, nous pêchons. Nous pêchons au sens non de la pêche, hein. Nous pêchons parce que nous sommes mauvais. Mais que faire pour que, les pauvres aient une place autre que celle de la relégation, qu'elle soit géographique, sociale, de stigmatisation dans notre société. Bien, je dirais une formule là-dessus, issue du Grenelle de l'insertion, qui d'ailleurs avait été lancée ici, qui est une sorte de gimmick, comme on dit en musique, là, de l'action sociale, c'est qu'il serait judicieux de véritablement mettre les usagers des services de prise en charge au centre de la prise en charge. Ayant dit cela, il ne faut pas conclure, il faut donner des idées là-dessus, je vous en donne quelques-unes parce que je vais avoir un propos plus normatif. Il faudrait que les gens comptés comme pauvres et pris en charge par les travailleurs sociaux puissent évaluer leurs travailleurs sociaux, par exemple. Ça leur permettrait, c'est proposer la discussion, hein, véritablement avoir une sorte de position non plus démocratique que ce dont ils disposent aujourd'hui. La troisième chose, c'est la démocratie dite de régulation, vous avez noté ça, la démocratie procédurale, c'est la question du vote. Et en la matière, là, nous avons progressé. pas nécessairement de manière fulgurante, hein, mais je vous donne une image et une suggestion, une proposition. L'image, ou plutôt l'information, si vous ne le savez pas, c'est que les sans-abri, qui ne sont pas rattachés à un domicile physique, par nature et par définition, peuvent être plus aisément domiciliés aujourd'hui avec une boîte aux lettres, par exemple, dans une association, et bénéficiant de cette domiciliation, peuvent voter aujourd'hui. Il y a des progrès, même en matière de démocratie procédurale. Et maintenant, je vais venir après sur les questions technico-bureaucratiques de décompte, mais il y a une chose qui est assez incontestable, c'est que c'est quand même les jeunes qui sont les plus frappés par la crise, par la pauvreté et par la transformation des inégalités aujourd'hui. Ça, c'est ni un scoop, ni quelque chose de très discutable. Donc, une suggestion pour que nous rééquilibrions notre démocratie, c'est de faire passer le droit de vote à 16 ans. C'est une mesure peu coûteuse, peu idiote, et qui permet des débats très importants sur l'évolution de la démocratie. Les jeunes étant les plus défavorisés par la crise, pourquoi ne pas leur donner plus d'indépendance et d'autonomie et de pouvoir politique par l'abaissement du droit de vote, avec une seule légitimation ici, il y en a plein d'autres, qui est qu'à partir de 16 ans, ils peuvent commencer à travailler, ils peuvent commencer à payer des impôts, ils peuvent commencer à être dans ce précariat dont Serge Pogam a dit qu'il se généralisait aujourd'hui. Donc, donnons-leur plus de pouvoir politique. Deuxième point de mon intervention, c'est de quoi parle-t-on après avoir fait le malin? De quoi parle-t-on? Continuons à faire le malin avec une transition qui est, vous l'avez peut-être entendu dans le propos de Pierre Rosanvallon, c'est que la démocratie, se complexifie et qu'il faut même la complexifier. Donc, allons-y sur qu'est-ce que la pauvreté. Il y a des bagarres d'indicateurs que les démographes, les statisticiens, les économistes, les sociologues, et puis tout le monde se renvoie à la figure. Je vous en donne une seule image. Hein. Si on considère que les pauvres, c'est les 10% les moins riches, qui est, à mon avis, la définition la plus claire, la plus posée, c'est embarrassant pour l'action publique si on veut diminuer la pauvreté. Vous allez voir, mais je vais faire de la mathématique simple. Hein. S'il y a 10% qui sont toujours... Si on a toujours la même proportion, on aura du mal à faire diminuer la proportion. Bon. Mais non, mais c'est pas idiot que de considérer que les plus défavorisés, c'est les 10% les plus défavorisés. Alors, on peut aller plus loin et dire que c'est les 20%. Alors, maintenant, à l'échelle européenne, après les bagarres homériques qui continuent, on considère que les pauvres, vous le savez peut-être pour la plupart d'entre vous, c'est ceux dont le revenu par unité de consommation est inférieur à 60% de la médiane. Ouf. Bon. Donc, c'est incompréhensible pour le commun des mortels. Mais c'est à partir de là que l'on fait les séries.
Vous l'expliquez très bien, nous.
Oui, donc Alter Echo et Les Échos l'expliquent très bien. Ceci dit, si on prend ces chiffrages les plus sérieux et avec les outils de décompte qui permettent de suivre des séries en la matière, que noter? Alors là, c'est peut-être un scoop pour certains d'entre vous, Serge va m'étriper, mais c'est que depuis une trentaine d'années, la pauvreté et les inégalités, même appréciées par les indicateurs les plus classiques, n'a fait que baisser. Donc, depuis le mouvement statistique de la pauvreté apprécié à l'aune de cet indicateur, il y en est d'autres, mais d'ailleurs, si on prend la plupart des indicateurs, on observe une baisse de la pauvreté et des inégalités très forte des années 70 au milieu des années 80, et aujourd'hui, on a plutôt une stabilisation. Et au-delà de la stabilisation, d'ailleurs, une confusion avec un appareil statistique qui est de plus en plus compliqué, sophistiqué, et qui nous fait sauter un million de pauvres entre 2004 et 2006. Mais c'est assez important, ces discussions techniques sur la pauvreté, parce que sur la crise, tout le monde craint une explosion des inégalités et une explosion de la pauvreté. Je vais continuer dans la provocation, vous allez voir. C'est que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes d'inégalités? Alors, on peut lire parfois dans la mauvaise presse, donc pas dans Alter Echo ni dans Les Échos, entre autres, que les inégalités exploseraient. Mais c'est totalement faux. Nous sommes dans une période de réduction des inégalités comme on n'a jamais connu. Parce que pour diminuer les inégalités, il y a deux vecteurs principaux. Soit les pauvres s'enrichissent, soit les riches s'appauvrissent. Et qu'est-ce qui se passe pour les pauvres riches ces temps-ci? Leur patrimoine, mobilier et immobilier, s'effondre. Donc on a une réduction considérable des inégalités. Je continue sur la pauvreté. Non mais je le fais en souriant parce que je sais que c'est à la fois provocateur et simple. Mais tout ceci est vrai, mathématiquement. Alors après, c'est tout à fait exact.
Sans parler de la perte de revenus sur les stocks options.
Ah oui, la perte de revenus sur les stocks options. Et plus de bonus, enfin tout ça, c'est affreux. Mais en même temps, ça diminue les inégalités. Alors. Sur le taux de pauvreté, alors plus sérieusement, admettons que la crise soit encore plus radicale que ce qu'elle est aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas, et ce qui est d'ailleurs hautement improbable par rapport à ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'on ait une diminution du revenu médian, à partir duquel on choisit une proportion pour calculer le taux de pauvreté. Et bien, voici avec nos indicateurs où nous en sommes, c'est que si nous avions une crise radicale, avec diminution du revenu médian, eh bien nous aurions également une diminution de la pauvreté. C'est embarrassant. Tout ceci pour dire que nous avons une méthode de mesure de la pauvreté, généralement, à la à l'aune de plusieurs indicateurs. On peut se battre pendant des années, pendant des bouquins, ce qui est d'ailleurs assez agréable et intellectuellement enrichissant, mais pas utile immédiatement pour l'action. On n'arrive pas à beaucoup évoluer. Mais enfin, on a des indicateurs de pauvreté qui sont des indicateurs d'inégalité. Et donc, je plaiderai, parce que je suis très normatif là-dessus, pour l'institution en France, d'un indicateur de pauvreté absolue. Alors c'est marrant parce que dans d'autres contextes, le contexte mondial par exemple, ou le contexte américain, ils ont des indicateurs de pauvreté absolue et ils veulent mettre en place des indicateurs de pauvreté relative. Donc c'est bien parce qu'on pourrait se compléter ainsi, mais nous il faudrait qu'on ait un indicateur de pauvreté absolue qui ne serait pas dépendant de la conjoncture, voilà, tout simplement. Sur la question du sentiment, sur laquelle Serge, et de l'évolution très forte, alors là, incontestable, où on passe d'une forme de compassion à une forme de contestation forte de la situation des personnes et même des politiques qui sont mises en œuvre pour les aider, il y a une particularité française qui est forte en Europe. C'est que nous sommes en France la population qui craint le plus la pauvreté. À des questions Eurobaromètre, il y a des questions qui sont suivies par les institutions statistiques européennes, qui est: pensez-vous pouvoir devenir un jour pauvre? 86% des Français répondent oui. 86% des Français qui sont en France, 86% des personnes qui vivent en France répondent oui, nous plaçant en tête du peloton européen. La moyenne européenne est à 2/3, donc à peu près 66%, et nous avons les Maltais, les Tchèques et les Polonais qui sont en dessous de 50%. La crainte de la pauvreté est quelque chose de particulièrement ancré. Le risque de se trouver dans cette situation est considéré comme particulièrement élevé. Autre chiffre, par exemple, si on pose la question: pensez-vous pouvoir devenir un jour sans-abri? Nous ne sommes pas en tête, là, si j'ose dire hélas, pour mes petits gags, nous sommes en troisième position derrière les Lituaniens et les Lettons. Nous avons une singularité française à l'égard de la pauvreté, qui est que, même si elle n'a fait que baisser sur la période récente, quand je dis ceci, j'appuie le propos là avec un rapport récent de l'OCDE qui montre la singularité française en la matière, quand dans la zone OCDE, inégalité et pauvreté ont sensiblement et dans certains cas très sensiblement progressé, nous avons, nous, connu une amélioration en la matière, et toujours avec cette crainte de la pauvreté qui reste prononcée. Je vais dire deux mots, si j'ai encore un tout petit peu le temps, là, toujours aussi normatif. J'ai le temps ou pas, monsieur le directeur-président? 3 minutes, c'est parfait pour deux mots. La première, c'est pour dire combien le gouvernement est super performant. Mais vous allez voir que je suis plutôt du camp de ceux qui pensent qu'il y a des avancées positives. Il faut bien que je faillote un peu. Ayant été le rapporteur général du Grenelle de l'insertion, je ne peux pas tout critiquer. Je pense qu'il y a une révolution forte qui est le fait que l'on s'est fixé des objectifs quantifiés de réduction de la pauvreté. Récemment, vous savez, la France, en tout cas le gouvernement, s'est vu fixer l'objectif de réduction d'un tiers de la pauvreté en 5 ans. Ça appelle plusieurs choses. D'abord à définir la pauvreté. En termes bureaucratiques, hein, comment va-t-on suivre cet objectif, comment va-t-on l'atteindre? Et c'est une véritable transformation de nos politiques publiques internes pour tenter de voir si nous progressons. Car en la matière, on se dit toujours, poète, il y a de plus en plus de pauvres, alors que ce n'est pas véritablement le cas, de plus en plus de sans-abri, alors qu'on a du mal à savoir exactement ce qu'est la taille, le périmètre et donc les évolutions de la population. Donc je pense qu'il y a une révolution forte récemment. Alors on va nous dire dictature de l'indicateur, et donc par formule, je vais dire qu'il faut souhaiter la démocratie de l'indicateur. Au-delà de la formule, ça signifie qu'on peut se mettre d'accord sur des objectifs quantifiés de réduction des problèmes que l'on souhaite combattre. Et en la matière, je pense qu'il y a une révolution intéressante française. Alors que cette révolution, nous l'avons déjà signée à l'échelle européenne, où vous avez des objectifs de réduction de la pauvreté qui n'ont pas fonctionné. Dans la célèbre stratégie de Lisbonne, on a déjà évoqué Lisbonne là, mais avec des observations plus sociologiques, moi elles sont plus bureaucratiques là, il y avait un objectif 2000 qui était d'éradiquer la pauvreté à l'horizon 2010. On est loin de l'avoir atteint, quel que soit l'indicateur. À l'échelle mondiale, puisqu'on a évoqué ça ce matin aussi, la France, c'est un autre scoop, est membre de l'ONU, et nous avons des objectifs du millénaire pour le développement, à horizon 2015 d'ailleurs, qui sont de diminuer par deux, l'ensemble de ces objectifs, mais il en est un, qui est de diminuer par deux la population vivant en situation d'extrême pauvreté dans le monde. Situation d'extrême pauvreté qui est évaluée à l'aune d'un indicateur que l'on présente journalistiquement, heureusement pour le comprendre simplement, mais il est plus élaboré, mais enfin on le comprend très simplement, c'est $1 par jour. Pour vivre. Il n'y a personne en France dans cette situation. En tout état de cause, il y a des objectifs chiffrés de réduction de la pauvreté un peu partout dans le monde, et nous venons de faire cette révolution qui est, en période de croissance, on a fait la révolution. On verra si on les atteindra, ces objectifs. Ça paraît rendu plus compliqué par la crise. En tout cas, je pense que pour les politiques publiques, c'est une transformation récente majeure. Sur le RSA, qui à mon avis est une question démocratique à l'aune de ce problème démocratique qu'a souligné Pierre Rosanvallon, celle de la complexité. Je pense que, avec un vocabulaire fleuri, c'est totalement imbitable le RSA. C'est ça le vrai problème. Pourquoi? Parce que Serge, tu dis avec d'autres, qu'il y a institutionnalisation du sous-salariat avec le RSA. Je pense que le RSA en la matière est un pas de plus, mais n'est pas véritablement la révolution majeure. Pourquoi cela ? Parce que dès le RMI, vous avez les techniques d'intéressement, qui étaient provisoires, qui n'étaient pas à long terme. La PPE en soi, alors la prime pour l'emploi, le petit impôt négatif à la française, est en soi, cette mesure, un soutien qui pourrait être éternel au sous-salariat. D'une autre façon, encore plus bureaucratique, les exonérations de charges sociales sur les bas salaires, c'est un peu la même logique. Ce que je dis par là, c'est que le RSA avait une première ambition. Serge et moi avons participé à la commission qui a évoqué la création de ce dispositif. Cette première ambition, qui est donc, je la prends aujourd'hui, démocratique, c'était de simplifier. Aujourd'hui, un des problèmes du RSA, c'est que puisque ce qui a été voté n'avale pas la PPE, vous voyez, je vous avais dit que je pouvais être bureaucrate, hein, eh bien, nous complexifions le système à un point absolument dément. Personne dans la salle ici, on fera le test si vous le souhaitez, ne peut clairement expliquer le RSA. Alors, et tous ceux qui souhaitent, dont moi, hein, et tous ceux qui souhaiteraient avoir une explication simple seraient relativement déçus. Je crois que ça, c'est un des problèmes des politiques publiques à la française de lutte contre la pauvreté, c'est que l'on accumule des machins et que ceci devient absolument incompréhensible pour la doctrine juridique, mais ça, à la rigueur, on s'en fout, pour le gestionnaire, on s'en fiche un peu moins, car cela coûte cher et en outre, les défauts de mise en œuvre des systèmes d'information qui ne sont pas de la responsabilité justement de l'opérateur et des gestionnaires, mais de la complexité du droit, font que la situation des personnes est rendue de plus en plus dure et difficile, avec des problématiques de non-recours, par exemple, aux droits dont ils peuvent bénéficier, et les bénéficiaires n'ont aucune visibilité sur ce à quoi ils ont droit, n'y comprennent rien. Et ça, ça me semble démocratiquement particulièrement embarrassant. Maintenant, le RSA a quelques vertus fondamentales, de mon petit point de vue, mais qui sont loin de l'ambition, c'est vrai, forte, que l'on entend parfois qui lui est attaché d'une révolution sociale. Mais c'est deux vertus que je juge assez bureaucratiques, mais en même temps attachées à des principes de justice fondamentaux. Le premier, qui n'est pas un principe de justice, c'est qu'enfin on fusionne deux minima sociaux et à terme un troisième. Mais derrière le RSA, dans son ambition originelle, on devait encore plus simplifier notre système de protection sociale, ce qui, à mon avis, est particulièrement souhaitable. La chose la plus importante derrière le RSA, de mon point de vue, c'est que sa logique est que les aides sociales vous soient servies non plus en fonction de votre statut, mais en fonction de votre niveau de revenu. On va le dire très clairement, est-il légitime que si vous avez un revenu qui est, on va dire, de 450 euros par mois, revenu faible, tout le monde peut en convenir, si vous êtes titulaire du RMI ou de l'API, vous pouvez aller gratos à la piscine, alors que si vous êtes à un peu moins de demi-SMIC, eh bien, vous devez quand même payer la piscine. Voici la révolution en cours avec le RSA. Je conçois que ce point positif n'est pas grand-chose par rapport aux critiques fortes qui peuvent être apportées au dispositif, tant du point de vue de sa complexification, car il complexifie tout l'édifice de prise en charge des plus démunis, que du débat qu'amène Serge, et il a dit qu'on pouvait en débattre, qui est, c'est vrai, ce débat sur l'institutionnalisation du précariat. Voilà, j'avais plein de choses à vous dire, j'espère que ça n'a pas été trop incompréhensible. Merci.
Merci. Merci, Julien. C'est vrai que même si tu l'as traité sur le mode humoristique qui te caractérise parfois dans tes interventions, c'est vrai que le débat statistique sur la pauvreté n'est pas uniquement un débat de mécanicien. Il a des enjeux extrêmement importants. Et notamment, les derniers chiffrages qu'on a pu avoir qui donnent, enfin, c'est la réflexion que je faisais à Serge Pogam à l'oreille en t'écoutant, qui donnent un nombre de pauvres très important en France, loin de renforcer l'importance du phénomène, peut avoir l'effet inverse, puisque la limite supérieure finalement de la pauvreté en termes de niveau de revenu devient finalement pas si basse que ça, rapporté à ce que peuvent être les conditions de vie dans une petite ville de province, etc. Je ne dis pas si tu vis en région parisienne. Bon. Et elle masque le fait qu'au sein de cet univers de pauvres, la distribution du revenu est extrêmement inégale. Bon. Alors, l'autre point, c'est que tu as donné beaucoup d'exemples, mais qu'il serait amusant que dans le débat, on puisse revenir justement sur le critère, sur le mécanisme qui a été retenu de ce mécanisme de pauvreté ancré dans le temps, précisément parce que autant l'idée d'avoir une définition de la pauvreté absolue, je veux dire, me paraît une idée tout à fait juste, dans la mesure où elle peut renvoyer à des critères objectifs de besoin, et qui peuvent être des critères extramonétaires, justement, dans l'accès à un certain nombre de droits, qui est au cœur du débat qui nous réunit aujourd'hui sur la question pauvreté et démocratie. Mais dans le même temps, cette pauvreté absolue doit être constamment réévaluée dans le temps, au fur et à mesure que les normes sociales se modifient en termes d'exigence, de ce qui est le minimum acceptable en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès au logement, etc. Donc on est toujours dans la contradiction d'une échelle qu'on souhaite la plus significative possible, mais dont les barreaux se modifient au fur et à mesure que l'histoire se développe. De ce point de vue-là, c'était, même si nous expliquer sur le mode de l'humour noir, effectivement, si la crise s'aggrave, la pauvreté va diminuer puisque le revenu médian risque de s'effondrer, nous rappelait précisément, malheureusement, avec un exemple plus dramatique, cette relativité. Bon. Philippe Varin, c'est à vous pour 15 minutes encore. Bon, et je serais tenté de vous dire, bon, et qu'est-ce qu'on fait de plus ? Parce que là, pour l'instant, on nous a dit qu'il y en avait qui étaient un peu contre le RSA, d'autres qui étaient contre aussi, mais que quand même, ils lui reconnaissaient 2-3 qualités. Mais on pourrait peut-être aller un peu plus loin.
Plus loin, je n'en sais rien, mais bon, en tout cas, essayer de reprendre la discussion bien introduite, différente par Serge et Julien, sur le lien entre lutte contre la pauvreté et démocratie. Et peut-être commencer par une question alors, tout à fait impertinente. Il s'agit de savoir si la démocratie n'explique pas en partie la pauvreté. Alors, je ne parle pas ici de l'idée ou l'idéal de démocratie. Il est clair que quand on regarde le stock à disposition de type ou de régime politique, il est difficile de penser une alternative au régime démocratique. En tout cas, très largement et heureusement, les citoyens, nos concitoyens et nous-mêmes aussi, je suppose, pensons qu'il y a tout intérêt à préserver notre démocratie. Ceci dit, la démocratie en action, dans son fonctionnement le plus quotidien, le plus impliqué dans l'action publique, pose de sérieux problèmes à mes yeux et peut être source de phénomène de pauvreté. Alors, moi, je vais aborder les choses de façon assez concrète, partant de différentes observations que nous pouvons faire dans des programmes de recherche portant sur l'accès aux droits sociaux, et revenir sur ce qu'a dit Julien à quelques reprises, en particulier lorsque, tout début, tu as abordé la question de la démocratie et d'émancipation, en disant que là-dessus, bon, énormément de progrès, extension des droits sociaux vers les plus pauvres. Globalement, c'est vrai. Ceci dit, on peut quand même s'inquiéter de comment fonctionne réellement notre démocratie en ce qui concerne la connaissance que l'on a des pauvres et de leurs besoins. C'est une vieille question. Des collègues historiens comme Jacques Guillaumeau avaient bien montré comment, dans la période pré-révolutionnaire, la question de la connaissance du tiers-État, des sangs, était absolument majeure. Des acteurs principaux comme Seyès avaient largement contribué à ce que l'on reconnaisse, que l'on mesure même, pour lui, pour Jacques Guillaumeau, c'est d'ailleurs l'origine, une sorte de prémisse de la sociologie, que l'on reconnaisse ces populations et ces sans-droits. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous ? Est-ce que la situation est aussi claire que ça ? Et je pose d'ailleurs à Julien Damon, qui à un moment donné, dans sa longue et fructueuse carrière, a transité à la Caisse nationale de l'allocation familiale. Quand on prend la question sous l'angle des ayants droit potentiels à différentes prestations sociales, la question est majeure. Pour ce qu'on appelle les populations pauvres, il est tout à fait clair que les prestations sociales constituent une part importante du revenu. Beaucoup de personnes n'accèdent pas totalement ou en partie à l'intégralité de ces prestations sociales. La pauvreté, c'est la fin du mois au 20. C'est lorsqu'on n'a plus rien pour vivre. Ceci étant dit, où en sommes-nous justement dans la reconnaissance institutionnelle, administrative, de la question des ayants droit potentiels et de la question du non-recours aux prestations, aux aides sociales, en l'occurrence, pour se limiter à ces questions-là, simplement. Il semble bien, et c'est ce qu'on voit en examinant, en essayant d'observer ces phénomènes, que nous sommes loin du compte. Alors, on pourrait avoir de multiples exemples, mais quand on regarde on avait fait le non-recours aux aides sociales facultatives qui environnent le RMI, les proportions de non-recours sont colossales. Et pourtant, c'est de l'aide à l'accès au transport, c'est de l'aide à une tarification spéciale en matière d'énergie et d'autres choses encore. Quand on regarde aussi l'accès à la santé, on s'aperçoit que les allocataires du RMI, qui peuvent avoir accès à la complémentaire CMU, en l'occurrence, sont nombreux à n'avoir aucune complémentaire santé. 16%. On a d'ailleurs travaillé au local avec les institutions nationales pour élaborer un dispositif permettant de mesurer et d'identifier ces populations, parce que les données globales que l'on avait étaient relativement erronées. Donc il existe un problème de non-reconnaissance de cette question majeure de l'accès de tous à ces prestations sociales qui constituent, je le répète, une partie importante des revenus des ménages pauvres, mais des ménages pauvres en particulier. Donc, moi, il me semble qu'autour de cela, il y a une question qui est à poser en ce qui concerne la démocratie dans sa mise en œuvre et dans son fonctionnement. C'est comment continuer à rester, lorsqu'on est acteur institutionnel ou administratif, dans l'ignorance de ces difficultés d'accès aux prestations sociales, dans l'ignorance de ces phénomènes de non-recours, alors que, justement, la démocratie, au sens aussi de la confiance des citoyens dans les politiques qui sont mises en œuvre et dans les acteurs qui les portent, repose sur la mise en œuvre effective de grands principes, comme celui de l'accès de tous aux droits sociaux. Idée principale de la loi de 1998 de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. On peut aller un peu au-delà, de façon plus prosaïque, voire peut-être un petit peu technique, toujours sur le même registre de la connaissance des populations pauvres et de leurs besoins, toujours sous l'angle de ces prestations sociales. C'est-à-dire, finalement, comment se fait-il que dans notre pays, un certain nombre de débats ne sont pas véritablement posés, alors que, lorsqu'on interroge les populations qui sont en situation de précarité ou d'exclusion, il y a une demande qui arrive sur ces points-là. La demande, par exemple, c'est d'essayer d'avoir une automaticité dans les systèmes de prestations, de façon à éviter, je dirais, ces démarches administratives qui pénalisent nécessairement des populations qui n'ont pas toutes les capacités à obtenir leurs droits avec simplicité. Pourquoi ne pas poser, comme dans d'autres pays, je pense aux Pays-Bas ou à la Belgique, mais à d'autres encore, la question d'une automaticité pour certaines prestations sociales. Je ne dis pas que c'est une possibilité qui est facile à généraliser, mais sur un certain nombre de plans, je reprends la question des complémentaires santé en l'occurrence, il serait tout à fait possible d'associer à des minima sociaux l'accès, je dirais, renouvelé à une complémentaire CMU-C, en l'occurrence. Or, de ce point de vue-là, notre système est fait de chausse-trappe dans lesquelles tombent des populations pauvres et qui se retrouvent éloignées de leurs droits en matière de santé, si je poursuis l'exemple. Autre élément de débat qui n'est pas posé par nos institutions et qui pourtant est donné, apporté par ces populations lorsqu'on va vers elles, et Serge le sait mieux que moi, c'est-à-dire, mais attendez, c'est bien de pouvoir calculer notre éligibilité à telle et telle chose en fonction de nos revenus. Mais nous, la réalité, c'est le reste pour vivre, ce qui est tout autre chose. L'accès à un certain nombre de prestations se mesure d'un point de vue administratif en fonction de revenus des ménages. Très bien. Mais une autre chose est de considérer la capacité pour vivre financièrement de ces ménages, du reste à vivre au 20 du mois, justement. Et sur ce plan, là aussi, des enquêtes sociologiques répètent ces constats. À aucun moment, là on peut se demander à quoi sert la recherche, à aucun moment, ça rentre dans un débat collectif. Donc là, il me semble qu'on met le doigt sur des difficultés de fonctionnement au quotidien de notre démocratie qui peuvent alimenter, d'une certaine façon, les sources de la pauvreté. Un deuxième registre d'observation porte cette fois-ci sur la question des collectifs dans lesquels on introduit les actions en matière de lutte contre la pauvreté. Peut-être, vaste question, peut-être deux observations essentiellement. Des travaux indiquent comment les populations qui se trouvent en situation de pauvreté, sur un plan économique, mais aussi c'est lié bien sûr à l'éloignement du travail, etc., qui sont dans des difficultés financières pour vivre, sont bien souvent dans des situations d'isolement et de repli. Sur ce plan-là, il faut absolument souligner le travail tout à fait considérable pour sortir de leur isolement ces populations, de façon à les remettre dans des capacités, le travail qui est fait par un grand nombre d'acteurs associatifs sur des micro-territoires, mais aussi par des acteurs de l'intervention sociale. Lorsqu'on interroge cette fois-ci des acteurs de l'intervention sociale, qui sont plus proches des populations pauvres, mais là je considère aussi les populations en situation d'exclusion, l'essentiel est d'essayer de remettre ces personnes dans une confiance en soi, dans un respect de soi, dans une estime de soi, bref, dans des processus de reconnaissance, bien avant d'amener les personnes vers des parcours, vers des droits sociaux. Or, il est vrai que de nombreux acteurs de l'intervention sociale sont confrontés aujourd'hui à cette réalité. Il ne s'agit pas d'abord de traiter l'accès immédiat des populations vers un certain nombre de dispositifs d'aide, mais de pouvoir reconstituer les individus dans leur reconnaissance. Sauf que, tel que fonctionnent nos institutions, ces intervenants sociaux sont pris dans un dilemme considérable. C'est que ce travail de reconnaissance n'est pas reconnu par leurs institutions. Bien souvent, on leur demande de remettre des personnes dans des parcours, de les amener à des dispositifs, de les amener vers un certain nombre de prestations et d'aides. Il y a des logiques de management qui s'appliquent aujourd'hui au travail social. Le travail social est soumis aussi à un certain nombre d'indicateurs qui conditionnent d'ailleurs les financements de ces postes. Comment fait-on lorsqu'on est intervenant social pour répondre à ces injonctions alors que le travail essentiel, préalable, est un travail de reconnaissance? Donc de ce point de vue-là, je dirais de ne pas écouter cette réalité, la réalité que voient des associatifs comme des intervenants sociaux, pose, me semble-t-il, un problème de démocratie, dans la manière de considérer l'objectif et le fonctionnement même de l'action publique. Deuxième et peut-être dernier élément pour ne pas être trop long, il est très important, mais non, ce n'est pas que ce soit très important, c'est évidemment, je dirais, le cœur de la question. Pauvreté, rapport à l'emploi, etc. Ceci dit, il y a des choses qui sont aussi tout aussi importantes et inquiétantes, et en particulier lorsque ça concerne des populations, certaines générations qui ne vivent que dans la crise, dans l'absence de travail depuis des lustres. Et même leurs aînés y étaient. Donc l'idée même du travail et de l'emploi, je dirais, se dilue pour ces populations-là. Ce qui est inquiétant, c'est que ces populations, qui sont sur des territoires que l'on connaît, ne sont pas dans les centres-villes forcément, sont des quartiers d'habitat social. Or, ces quartiers d'habitat social, comment évoluent-ils par rapport à nos politiques d'équipement, par rapport à nos politiques d'aménagement? Me semble-t-il, pas partout, il ne s'agit pas d'avoir une critique globale, parce que des efforts sont faits au niveau local, mais quand même, y compris dans une ville, je suis grenoblois, allons-y, y compris dans une ville comme Grenoble, quand on regarde certains quartiers importants d'habitat social. Il y a un appauvrissement considérable de l'ensemble des offres apportées à ces populations, ou en périphérie. Que ce soit une offre commerciale de bas de gamme, qui fait que finalement la mobilité des individus se fait vers ces centres-là, dans le rôle de consommateur. Mais plus grave encore, il y a un appauvrissement de l'offre de services publics, me semble-t-il, qui est en train de se développer dans notre pays à travers l'extension d'un certain nombre de services de proximité, souvent tout soutenus par des entreprises, et qui captent assez largement les populations de ces quartiers, qu'on peut considérer comme précaires ou pauvres, au vu des critères que vous avancez, captés donc par ces structures de proximité, de services publics bas de gamme ou au rabais, et qui, quelque part, font que ces populations n'ont plus que pour seul horizon ces services-là, et prennent des distances avec, pourtant, d'autres services qui peuvent être à proximité, que ce soit des équipements socioculturels ou des services sociaux. Bon. Il y a aussi des formes de rupture qui sont visibles, observables, dans le rapport de ces populations avec l'offre de services publics traditionnels proposés par des centres sociaux, par des équipements socioculturels, la part d'une population qui se replie par elle-même, sur elle-même, et qui se trouve être captée par une forme d'offre publique appauvrie. Et du coup, on peut se demander dans quel collectif on réinscrit ces individus. Probablement dans des collectifs qui referment une chose, les individus par rapport à une chose qui est tout à fait essentielle, qui est leur capacité à imaginer, au-delà de ces services de première, de proximité et bas de gamme, d'imaginer leur demande sociale au-delà, d'imaginer que, comme d'autres, peuvent avoir accès à la culture, à une aide sociale professionnelle, de qualité, etc. Donc il me semble qu'il faut être aussi extrêmement vigilant sur comment on se transforme autour des offres qui se développent aujourd'hui de différents types sur ces territoires. Comment se développe finalement ce qu'on peut appeler l'offre, que ce soit une offre de service public ou plus largement, destinée à une population qui, du fait de cette consommation qu'il peut avoir de cette offre-là, peut se mettre en repli par rapport à la possibilité d'accéder à un univers de possibles qui peut aussi faciliter leur émancipation. Donc il me semble que si globalement la démocratie d'émancipation effectivement a très largement progressé, quand on regarde les choses par ce type de détail entre guillemets, on peut s'interroger sur les progrès qui restent à faire. Donc voilà quelques observations très simple que je voulais apporter à ce débat.
Merci. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes. Je ne sais pas comment on marche pour donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des micros ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est censé gérer Voilà. Donc j'ai une demande de prise de parole là-bas. Ensuite, bon.
Bonsoir, merci pour...
Si vous pouvez vous présenter.
Bien entendu, Patrick Verroust. Ce qui m'a semblé ressortir de vos interventions, enfin, ce que je ressortirais tout au moins, qui me semble... peut-être la clé du problème, c'est l'espèce de consensus global, quelles que soient pratiquement les lignes politiques, gauche-droite, enfin des grands partis qui prétendent gouverner, qui acceptent, dans le fond, cette mécanique-là. Je crois que c'est la seule question, finalement, qui reste. Le constat, globalement, vous le partagez tous. Mais ce qui a été dit, en fait, sur cette espèce d'acceptation d'état de fait qui reflète la société, qui accepte tout à fait cette espèce de libéralisme sous-jacent, cette espèce de marginalisation, cette acceptation qu'une large partie de la population n'a aucune chance de pouvoir sortir d'un état et de pouvoir avoir droit à l'épanouissement, ce qui fait évoluer d'ailleurs la notion de démocratie. La démocratie, c'est pas seulement voter, c'est pouvoir aussi voter en étant épanoui dans son être et dans sa citoyenneté. On doit évoluer sur cette idée-là. Qu'est-ce que la démocratie? C'est aussi un individu qui a la possibilité de jouer un jeu d'acteur dans une société. Et ça, c'est quelque chose qui est nié. Et je crois que c'est pour moi, au-delà de tous les aspects techniques sur l'illisibilité du RSA, sur la culpabilisation, c'est marrant parce que par ailleurs, sur la culpabilisation, on est en train d'échapper. Les sociologues sont en train d'échapper à cette notion-là qui a couru pendant longtemps. On considère maintenant que les états de crise, par exemple au début 80, etc., marginalisaient, qu'ils le veuillent ou non, une partie de la population qui ne pouvait rien. Je ne pense pas que les Contillons ont décidé que de faire baisser eux-mêmes la fermeture de leur usine.
Donc Pierre-Louis Serrero, je viens de Grenoble. Dans la suite de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on ne peut pas dire que, pour répondre à ce que disait M. Poguin au tout début, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que, effectivement, entre au moment du tournant du gouvernement Mauroy, socialiste et communiste et radical de gauche, en 83 et 86, le tournant de choix économique, en fait, et là maintenant, on en est arrivé de ce temps qui a commencé, des choses, du processus qui a commencé à ce moment-là. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que la société considère, après la séquence, on est le 8 mai aujourd'hui, que la séquence née en 1944 est close et qu'on revient à un fonctionnement normal de la société. La pauvreté est une composante structurelle d'une société humaine. Donc la pauvreté, on fait avec, on se débrouille, on évite que les gens meurent dans les rues ou meurent de faim, encore que, quand on entend les associations humanitaires qui disent qu'ils ne savent pas comment c'est l'hiver prochain, ils vont nourrir toutes les personnes qui viennent frapper à leur porte. Donc il y a d'abord ça. Et puis ensuite, puisqu'on parle de pauvreté et de démocratie, est-ce que l'un des problèmes qui n'a pas été dit, mais en fait, j'interroge chacun sur... Je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre un enfant à l'école maternelle, l'école primaire, un prisonnier d'une part, et un chômeur et un précaire de l'autre? C'est que les instances qui décident de son sort... Il n'y a pas de représentant parmi les choisis ses pairs. Dans les commissions locales d'insertion, il n'y a pas de RMiste. Au conseil d'administration des ACEDIC, il n'y a pas de chômeurs. Les syndicats, pour partie, et c'est pour ça qu'ils ne font sans doute que 25% en prud'homales, alors que les chômeurs sont des électeurs aux élections prud'homales, les syndicats ne représentent pas les chômeurs, ne représentent pas les précaires. Dans la fonction publique, on sait très bien qu'ils ne représentent même pas les contractuels, qu'ils ne s'en occupent pas. Donc, est-ce que le problème, c'est par exemple de démocratie, c'est-à-dire comment les pauvres sont-ils représentés? Les femmes, n'importe quelle pratique culturelle, n'importe quel groupe ethnique, on met en place, on est à Grenoble, des conseils consultatifs de résidents étrangers. Mais y a-t-il, dans les instances, les RMistes, les précaires, les travailleurs pauvres, sont-ils représentés en tant que tels? La réponse est évidemment non. Donc tant qu'on ne réglera pas cette question-là, donc on n'arrivera pas à faire émerger cette catégorie de la population comme un groupe social. Ce qui est rigolo, c'est effectivement, c'est comme l'étudiant, c'est une catégorie sociale provisoire en creux. Là, effectivement, quand quelqu'un se retrouve dans cette situation-là, il regarde l'ensemble des dossiers qu'il constitue pour faire vivre à sa situation, il développe une compétence bureaucratique assez élevée s'il veut survivre. Malheureusement, il y en a qui n'y arrivent pas. C'est pour ça que les associations essayent de ramer. Mais en 98, on a bien vu quand l'État, en réponse au mouvement de chômeurs et précaires, qui était un peu plus d'importance que ce qui se passait avant, a proposé une aide de plusieurs millions de francs, on a vu arriver des gens qui étaient inconnus des services sociaux. Donc moi, je vous pose ma question, c'est est-ce qu'il est envisagé que dans les instances qui décident de leur sort, ce qu'on appelle les pauvres, les travailleurs pauvres, les chômeurs, les précaires, les exclus. Moi, je raconte, m'explique que comment on peut être exclu alors qu'on vit sur le même territoire à côté des autres, même si les autres ne nous voient pas et nous considèrent qu'on a une forme de choléra. Est-ce qu'il est envisageable que ces gens-là soient représentés?
Merci. On va prendre une dernière. Attendez, on va prendre une dernière question et ensuite on fera un tour de réponse. Monsieur, oui.
Moi, c'est juste deux petits points que je veux souligner pour permettre aux gens qui veulent concilier l'abstrait et le concret. Si vous souhaitez mesurer votre sentiment de culpabilisation, vous pouvez, à 100 mètres d'ici, fréquenter à midi un restaurant qui est fréquenté par une certaine partie des pauvres, et en particulier des SDF, et vous pourrez ainsi aider l'association qui s'occupe de ces SDF, et où le restaurant est ouvert à tout le monde. Et c'est intéressant d'aller manger. Les chiens ne sont pas agressifs. La deuxième constatation, c'était sur l'appauvrissement de l'offre. Et je voulais revenir à un exemple grenoblois qui est, par exemple, même si ça dépend de l'État, de l'utilisation de la police. Lorsqu'il s'agit de protéger un stade qui a coûté fort cher, on mobilise facilement 400 policiers. Lorsqu'il s'agit de protéger un quartier populaire, il y a l'absence complète de la police, dont le rôle primaire, au sens premier du terme, la police doit protéger le citoyen. Et on voit que l'absence de police, eh bien, elle s'applique à qui ? Essentiellement aux pauvres.
Ouais, parfois, il arrive que la police, parfois, s'occupe d'eux. J'en suis témoin chaque jour dans les couloirs du RER parisien, surtout s'ils sont de couleur. Bon, alors, je crois qu'en fait, dans les interventions, il y avait un lien évident entre, d'une part, l'absence, finalement, de représentation des différents publics exclus, pauvres, etc., et le fait que, au fond, les partis de gouvernement, à l'image, finalement, de, peut-être, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les partis, je veux dire, du fonctionnement aussi de la société dans son ensemble, finalement, s'accommode assez bien du phénomène. Donc, qui veut dire un mot là-dessus ? Vas-y, Serge.
Par rapport à l'acceptation d'un état de fait, je partage effectivement assez cette opinion, mais je voudrais aussi souligner que quand on prend en compte l'aspiration des plus défavorisés, que ce soit des travailleurs pauvres ou des habitants de cités particulièrement dégradées, on s'aperçoit qu'il y a une volonté non négligeable et assez forte donc de changer radicalement la société. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Il y a un radicalisme potentiel dans le mal-être que l'on observe autant dans le monde du travail que dans ces cités disqualifiées. Donc un mal-être, mais ce mal-être, il n'est pas, ou très peu finalement, pris en compte par les institutions. Je ferais assez le lien avec la non-représentation finalement des plus défavorisés dans des instances où ils pourraient justement faire part de leur mal-être et de leur volonté de changement radical de la société. Mais donc on a une situation qui est quasi explosive parce que il y a des frustrations qui augmentent sans cesse et qui ne sont donc pas prises en compte véritablement par des instances politiques ou des instances qui permettraient l'expression démocratique de ce malaise et la recherche de solutions associant les plus défavorisés. Quand vous prenez par exemple les quartiers défavorisés aujourd'hui et quand vous voyez comment on a mis en place les politiques de la ville, on se rend compte que très souvent ce sont des programmes très bureaucratiques qui sont mis en place dans ces quartiers sans véritablement prise en compte de la réalité des habitants, sans véritablement écouter et comprendre ce qui se joue dans les rapports sociaux, dans la mémoire collective de ces quartiers. Et très souvent, ça ne marche pas très bien, tout simplement parce que les acteurs ne connaissent pas véritablement les quartiers. ne connaissent vraiment pas les quartiers. Donc on se dit, mais finalement, la population ne vient pas dans tous ces dispositifs d'accès à la culture ou je ne sais quoi, ça ne marche pas très bien. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de connaissances précises et d'instances de négociation, de capacité d'écoute et de compréhension des populations et de leur frustration. Et c'est dans une recherche que je mène actuellement sur les quartiers en grande difficulté, les quartiers populaires de la région parisienne, où on peut observer donc des formes de mal-être ou de détresse psychologique très très élevées, variables d'ailleurs d'un quartier à l'autre. Mais on a interrogé récemment des bailleurs sociaux et des habitants, et on s'aperçoit qu'ils ne se comprennent absolument pas. Là où on observe dans la population un mal-être très très élevé, les bailleurs ne sont pas au courant et parfois même considèrent que le quartier va bien. Et donc on a des représentations complètement inverses de la réalité. Ça montre bien qu'il y a aussi, et c'est vraiment un problème majeur, de compréhension des mécanismes qui génèrent du mal-être et de la frustration. Et donc une incapacité justement à canaliser toute cette expression du mal-être dans des instances qui permettraient ou qui pourraient permettre de renverser la situation ou de donner une expression politique à ce mal-être. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème. Ça rejoint aussi tout ce qu'a pu dire Julien sur le fonctionnement très bureaucratique de nos institutions, la complexité de nos politiques sociales. Ça renvoie aussi tout ce qui a été dit sur l'accès aux droits, les difficultés d'accès aux droits. Tout ça est assez convergent. Donc on a, me semble-t-il, véritablement à nous interroger sur la façon donc de prendre en compte cette aspiration à un mieux-être et de pouvoir en donner une expression politique et démocratique dans notre pays.
C'est vrai d'ailleurs, sur l'accès au droit, si je me permets de me donner la parole pour une question, il y a un point dont vous n'avez pas parlé, mais moi qui m'a frappé dans le discours politique de ces deux dernières années, ça a été l'accent mis sur la fraude comme solution en partie au problème des déficits sociaux. Alors qu'effectivement, la question du non-recours n'a pas été évoquée. Or, il va de soi que le non-recours pèse beaucoup plus lourd aujourd'hui que ce qu'on peut dire de la fraude.
Et la fraude on a beaucoup mis ça en avant pendant la campagne présidentielle.
Oui,
justement, il y a des journaux qui ont fait la une sur la France assistée, etc. Enfin, vraiment, on préparait l'opinion contre...
C'était Alter Echo.
Oui. Non, pas du tout. Non, c'était Le Point qui a fait ça.
Juste.
Et il y a eu des émissions pendant cette période, mais c'est incroyable. Ouais. Ça, c'était des émissions sur la fraude. Ouais. C'est incroyable. Ouais, comme quoi, il fallait véritablement respecter.
Non, juste pour dire que la question n'a pas été, le simple événement de l'élection présidentielle. Quand on voit aujourd'hui comment les choses se mettent en place en termes de le trac, la fraude, il y a de quoi effectivement s'inquiéter, mais aussi s'interroger. Les dispositifs de suivi des situations dites de fraude, alors qu'est-ce qu'on entend par fraude, hein, parce que ça peut aller de simple indu vers finalement une fraude quasi industrielle. Les modes d'action qui sont mis en place et qui aujourd'hui poussent vers l'appariement des bases de données entre des caisses d'allocations familiales, les impôts, l'assurance maladie, etc. Toute cette technologie là qui est développée, effectivement, elle peut être aussi au service d'une détection des situations de non-recours. Il y a des questions techniques particulière. Ceci dit, je dirais, la démarche d'ensemble est la même. Alors, si derrière, il n'y a pas une volonté politique de voir un aspect et pas l'autre, je dirais, ça devient problématique. Donc, toute la question est de savoir si on veut aborder des sujets que l'on peut traiter ou pas. Simplement. Si on reprend la question du non-recours, c'est une question qui est en train de se développer. Ça a été pris en compte progressivement par un certain nombre d'institutions. Mais en moins, si on rapproche cela à la dynamique de l'action publique pour traquer les situations de fraude, on s'aperçoit qu'il y a probablement un effort encore majeur à faire pour mobiliser, pour mobiliser les acteurs. Juste peut-être pour reprendre sur la question différente, sur la représentation politique dans différentes scènes et dispositifs des populations pauvres et précaires. Moi, il me semble qu'il ne faut pas, quand même, l'un des résultats qu'on peut tirer de X années de la politique de la ville, où, de façon répétée, lancinante, on était sur la participation des populations, etc., c'est que, globalement, on est face à un échec. On est face à un échec, on le voit encore aujourd'hui, donc on peut s'interroger aussi au local sur les formes de démocratie participative qui sont mises en œuvre. Et là, moi, je rejoins tout à fait Serge Pogam, bon, si je le comprends bien, de dire, mais... il ne s'agit pas de baisser les bras par rapport à la nécessité d'avoir des formes de représentation et de participation de ces populations-là. Mais ceci dit, deux choses une. Soit on continue à ne pas considérer les populations et à avoir des dispositifs qui sont forcément, qui trient les populations, qui ne les invitent pas véritablement à participer et qui se retrouvent finalement entre des professionnels du débat politique, au local ou à d'autres niveaux, soit alors on inscrit au cœur de ces débats les questions qui intéressent les personnes. Ceci dit, je crois pas du tout que l'on puisse, gérer d'un claquement de doigts, convoquer, solliciter ces populations dans les arènes et forums qu'on pourrait mettre en place aussi facilement. Il y a probablement un travail de reconstruction de l'idée même de participation. Et c'est pour ça que important de reprendre aussi l'importance du travail, je dirais, de terrain, qu'il soit associatif ou du travail social, pour remettre, je dirais, dans l'idée d'une possible participation des populations qui en perdent même l'horizon. C'est ça qui est en train de se passer. C'est que d'un côté, je dirais, la pauvreté, c'est la perte même de l'idée de ses droits, c'est la perte même de l'idée de pouvoir intervenir ou participer, c'est la perte de l'idée de pouvoir contester à certains endroits. Et c'est pas, je dirais, en offrant les plus beaux dispositifs huilés, expertisés, etc., de démocratie participative dans les quartiers qu'on y arrivera. C'est aussi par un travail de reconstitution des individus et des groupes dans des collectifs intermédiaires, ce qui demande aussi de reconnaître l'action de ces associations et l'action de ces intervenants sociaux. Les derniers sont pris dans des problèmes d'injonction paradoxale, et les autres sont pris aussi dans des jeux politiques d'obtention de financement qui mériteraient d'être assez clarifiés, avec aussi de vraies évaluations, c'est-à-dire sociologiques, de l'apport essentiel que réalisent ces structures dans les quartiers auprès de ces publics, chose qui n'est rarement faite.
Oui. La démocratie ne doit pas être une injonction qui vient d'en haut.
Moi, je voudrais faire deux petits points et une belle provocation. Comme d'habitude. Bon. Le premier point, donc, est très sérieux, c'est la question de non-recours. Mes remarques vont être parfaitement bureaucratiques. Il se trouve que ça a été progressivement reconnu, c'est même devenu un indicateur LOLF, même mal fait, bon, en termes bureaucratiques. Ça ne veut pas dire qu'en quoi que ce soit, il a été possible d'avancer en la matière. Et je ne crois que pour avancer en matière de non-recours, on n'avancera pas tant qu'on ne simplifiera pas radicalement en termes de nombre de prestations, en termes d'échelle de collectivité publique, le nombre d'échelles et échelons de collectivités publiques impliquées dans la gestion, et même sur ces questions de travail social ou d'intervention sociale, sans réforme majeure, qui serait peut-être un retour à une période qui fonctionnait un peu, qui était celle de la polyvalence de secteur, de mon petit point de vue, qui fait que quelqu'un dans la mouise, et d'ailleurs plus on est dans la mouise, plus on a d'intervenants sociaux potentiels, ce qui fait que oui, ben, on cherche à se remobiliser par là, à reconsidérer par ici, à donner tel droit par-ci, les gens sont totalement paumés. Donc le non-recours ne passera à la moulinette efficace bureaucratique que lorsque la bureaucratie d'émancipation et la bureaucratie d'émancipation, enfin le pendant avec les démocraties d'émancipation et de redistribution, sera radicalement simplifiée. Mais vous savez, il est beaucoup plus simple de complexifier que de simplifier. Deuxième remarque sur la représentation des pauvres, sujet éminent qu'on n'a même pas abordé, comme quoi les trois n'ont pas les meilleurs du monde là-dessus. C'est vraiment un des sujets qu'on aurait dû prendre de plein pied, donc on le prend dans la figure pour tenter de le traiter en deux, trois phrases. Je vais le faire avec les évolutions récentes autour de Pôle emploi. Il se trouve que la décision a été prise par la loi qu'il n'y ait pas de représentants des usagers, des chômeurs, en clair qui auraient pu être représentés, même si c'est discutable, par le MNCP ou autre, au sein du conseil de Pôle emploi. En même temps, il y a eu une révision qui a été faite des comités de liaison qui valent ce qu'ils valent, hein, dans une négociation à Bercy entre le MNCP, la PEIS, Solidarité Nouvelle Face au Chômage et la direction de Pôle emploi. Alors je pense qu'on ne progresse pas à la vitesse lumière là-dessus et qu'une des propositions qui revient de manière récurrente sur la table, proposée par monsieur de Foucault, reprise dans le cadre du Grenelle de l'insertion, c'est bien celle du chèque associatif ou syndical. Pourquoi, lorsque l'on s'inscrit à l'UMP ou au PS, on a droit à 50% de diminution d'impôts? Et pourquoi, lorsqu'on est chômeur, on n'a pas la possibilité d'avoir un petit chèque qui nous permet de nous affilier à l'institution qui nous permet de nous révéler et d'agir collectivement? Je pense que ce serait heureux. La petite provocation, je peux la faire, hein, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'ici, enfin, j'ai ce sentiment que le libéralisme ne fait pas un accord universel. Je vous fais une petite remarque. D'abord, une information. Nous sommes passés d'un taux de dépenses sociales, c'est-à-dire d'un rapport entre les dépenses sociales au PIB de 25% au milieu au début des années 90 à 30% aujourd'hui. Et même, depuis 2007, stat Eurostat récente, nous sommes les premiers devant nos copains suédois et danois qui étaient devant nous généralement. Est-ce que véritablement nous sommes si libéraux que cela? Je vous laisse cette interrogation. Petite lâcherie.
Je dirais que la question, c'est effectivement derrière la question que tu poses, mais on peut peut-être terminer là-dessus, mais c'est qu'effectivement on est une société riche et qui continue aujourd'hui à avoir des mécanismes de redistribution extrêmement lourds qui permettent notamment jusqu'à aujourd'hui d'avoir diminué par exemple radicalement le taux de pauvreté des personnes âgées par rapport à ce qu'il était il y a 30 ou il y a 50 ans. De la même manière, même s'il y a des problèmes évidents d'accès à la santé, la qualité des services de soins qui sont offerts aujourd'hui sont perçus comme d'autant plus rationnés et d'autant plus insuffisants que la demande sociale qui s'exerce dans ce domaine n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 30 ans. Et c'est ce qu'on retrouve, de fait, dans ces chiffres. Mais pour autant, de fait, ce que la société est capable de faire pour la France, la plus pauvre d'entre elles, en dépit de sa grande richesse, pose quand même question. En dépit de la beauté de notre taux de part du PIB consacré à la protection sociale. Bon, on peut peut-être s'arrêter là. Je suis désolé, il est déjà 1h05.
Ah, bah merde.
Oui, mais il est. Je suis désolé, madame, il est 1h05. J'ai donné la parole dans l'ordre où les mains se sont levées. On est normalement obligé de libérer la salle. Vous avez sans doute l'occasion de rencontrer les personnes qui sont là. Je pense qu'on devait être un certain nombre à rester durant les 3 jours. Donc, vous aurez l'occasion de continuer le débat avec nous. Voilà. Merci à tous. Bon, c'est quand même qu'on a déjeuné. Mais...